Ce soir, je voudrais vous parler, plutôt vous continuer de vous parler de Salomon. Mais c'est vrai que les fréquences sont de plus en plus espacées, qu'il va falloir des sérieux rappels pour vous rappeler où on s'en est un peu arrêté. Alors, on ne va pas relire tout le chapitre, parce qu'il faudrait le faire pour bien se rappeler le contexte de 1 roi, chapitre 1er, où Salomon va devenir roi. Mais s'il devient roi, c'est parce que David a un peu précipité les situations, parce que le frère de Salomon, le demi-frère, ils ont le même papa, mais pas la même maman, donc c'est un demi. Le demi-frère Adonijah, lui qui avait plus d'âge que Salomon, s'est pensé être le successeur logique du père qui, lui, commençait à avoir sérieusement de l'âge. David, il avait 70 ans. À l'époque, c'était quand même honorable. Honorable. Il est sur la fin, il le sait. Mais il tarde à mettre son fils. Oui, 70 ans aujourd'hui, ça va. Hein? On arrive à tailler des haies, même encore à 70 ans. Voilà, mais on prend les jeunes aussi pour le faire. Hein? Il tarde à mettre son fils, parce qu'il sait que le fils qui doit prendre la succession, c'est Salomon, c'est Dieu qui lui a dit. Donc il le sait, mais Salomon, il est très jeune. Selon la tradition, pas biblique, mais juive, quand on regarde le Talmud et tout ça, ils ont voilà des traditions à eux, il n'a que 12 ans, il n'aurait que 12 ans. 12 ans, c'est un peu jeune. À 12 ans pour être roi. Surtout quand on voit le roi qu'il faut remplacer, le roi David. Alors David, il voit son fils et il dit « Ah, tu as l'air un peu jeune, je vais attendre que tu prennes de l'âge un peu. » Et c'est pour ça qu'il temporisait, qu'il tardait. Mais comme il tardait, ça faisait les autres frères et sœurs qui avaient plus d'âge que Salomon. Et notamment, il y avait Adonijah. Lui, il a 35 ans. Ça va, 35 ans? Ok, moi je prends le trône, il n'y a pas de souci, je suis prêt. Mais David savait que le trône, c'était pas pour Adonijah, pour ses plus grands fils. Non, c'était pour le plus petit. On retrouve ça avec, rappelez-vous, de David. Quand il a été choisi roi, Samuel, il a été confronté à tous les autres frères avant. Oh, lui, il est fort, lui, il est grand, c'est l'aîné. Et plus ça allait, plus ça faisait pas l'affaire, et ça sera le tout petit, le dernier. Bon, tout petit dernier, bon, il se battait avec les lions quand même, hein. Mais voilà, celui à qui on ne pensait pas. Et Salomon, ben c'est celui peut-être auquel les grands frères ne pensent pas qu'il fera l'affaire, et pourtant c'était le choix de Dieu. Adonijah, voyant que son roi, quand même, que le roi, son père tardait, il va mettre en place un coup d'État. Un coup d'État. Sans rien dire au roi, il va créer une division. Il n'y a rien de pire que les divisions. C'est pas d'aujourd'hui. Déjà, ça existait avant. Il va réussir à se mettre de son côté, et pas les moindres, hein, le général en chef, Joab, et le souverain sacrificateur, Abiathar, vont embrasser le parti d'Adonijah et voir en lui le successeur légitime. Et de l'autre côté, il y aura l'autre souverain sacrificateur qui était Sadoc à l'époque, et Nathan le prophète, qui, eux, refusent qu'Adonijah soit le prétendant, parce qu'ils savent, selon la prophétie, que c'est tout simplement Salomon. Et quand Nathan le prophète verra qu'Adonijah prend un peu trop les devants, vite il va aller courir auprès de David et lui dire qu'il faut qu'il réagisse absolument pour mettre un terme à cette situation, parce qu'Adonijah commence à faire vraiment trop de dégâts et il divise, on va dire, la cour royale et il entraîne le peuple. Donc déjà à sa suite, David, malgré son âge, va réagir, mais il se sent un peu forcé quand même. Il le fait parce qu'il faut le faire, mais lui, dans son cœur, il pense que quand même Salomon est encore trop jeune. Il le dira dans une de ses prières, je l'avais souligné la dernière fois, que quand il va prier pour l'investiture de Salomon, il va même le dire dans sa prière, mon fils Salomon est jeune et d'un âge faible. C'est pourquoi je veux faire pour lui tous les préparatifs pour plus tard le temple. Le roi David dit à toute l'assemblée, mon fils Salomon, le seul que Dieu ait choisi, est jeune et faible en âge, et l'ouvrage est considérable. Et quand on regarde le texte hébreu, quand il parle d'âge faible, c'est vraiment L'hébreu traduit la délicatesse de l'enfance. Un enfant, c'est innocent. Bon, ça dépend lesquels, mais bon. Voilà, quoi. Et c'est, David voit son fils comme ça. Un jeune enfant, un tout jeune enfant. 12 ans. 12 ans, c'est quoi? C'est pré-ado, hein? Pré-ado. Même pas ado, quoi. Pré-ado. Il a aucune expérience de la vie. Et pourtant, il est forcé, malgré lui, la situation, les circonstances font qu'il est obligé de le mettre à la place. Pourquoi? Parce que, il y avait une pratique, et ça c'était de tout temps, dans l'Antiquité, quand un roi prenait le trône, le meilleur moyen d'éviter les conflits à venir plus tard était de faire périr toute la lignée, potentiellement, qui pourrait se venger. Et certainement que qu'Adonijah, qui savait un petit peu quand même que c'était son frère qui devait prendre la place, aurait réglé la situation, elle les faisait exécuter. Et c'est pour ça, et c'est même dit, David le dira à Bathsheba, « Je vais mettre ton fils maintenant sur le trône pour que vos vies soient épargnées par Adonijah. » Par Adonijah. On a, c'était quand même des pratiques assez difficiles, hein. Ça crée des malaises familiaux assez facilement quand même, tout ça. Et on a un précédent, mais terrible, c'est quand, à la mort de Gédéon, quand Gédéon va devoir mettre un successeur, prendre un de ses fils, bien évidemment, mais celui qui sera à la place du père va faire exécuter tous les frères. Et c'était une grande, il y avait 70 frères. Imaginez la table, la tablée et les repas de famille. La Bible dit, il les fait tous exécuter, tous. Pour éviter des vengeances, mais plus tard. C'était terrible, hein. Et ça, c'est des pratiques, ça a toujours existé, du temps des royautés, mais même en Israël, ça existait. Et Adonijah, du moins David, dira, je te place roi pour que ta vie soit épargnée par Adonijah, parce qu'il va faire qu'une bouchée de toi, hein. Toi et de ta mère, Bathsheba. Alors il le place. Il va le placer comme roi, tout simplement, et sa vie sera épargnée. Et ce qui est étonnant, c'est qu'à la fin, le récit nous dit que le menaçant, c'est-à-dire Adonijah qui menaçait Salomon, la situation est renversée, et c'est maintenant Adonijah qui a peur de périr, il va vite s'en cramponner aux cornes de l'autel, alors que Salomon, lui, dans son cœur, il n'y a aucun esprit de vengeance. Adonijah, il est sûr qu'il va périr, mais Salomon lui fera dire, tant que tu seras loyal, aucun de tes cheveux ne tombera à terre. Jusqu'au jour où ça, la situation retournera, mais ça, on le verra en son temps. Ce soir, je voudrais partager avec vous sur ce fait que le coup d'état d'Adonijah a échoué, non pas parce que David a réagi, mais parce que Dieu lui a fermé la porte. Dieu lui a fermé la porte violemment. Parce que le plan de Dieu, c'était que Salomon soit roi. Et ça, c'était pas une décision de David, c'était une décision de Dieu, bien avant que Salomon, que bien avant que David ne sache les choses. Dieu ouvre des portes, ça vous le saviez, mais Dieu ferme des portes aussi. Et c'est plus dur. Surtout quand on aurait aimé qu'elles restent ouvertes. Mais Dieu ferme des portes parfois pour notre bien, tout simplement. Je vais lire dans l'Écriture trois textes. On ne les cherche pas, ils sont très courts et vous les connaissez. Proverbe 19. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit toujours. Vous connaissiez ce texte? Dans le cœur de l'homme, il y a beaucoup de projets, de désirs, d'aspirations, d'ambitions. Mais c'est normal, hein, l'homme est comme ça. Heureusement, hein. Mais c'est la volonté de Dieu qui s'accomplit toujours. Un autre texte dira, les projets que forme le cœur dépendent de l'homme, mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Toujours dans les proverbes. Toujours cette même idée que les hommes, oui, espèrent, ou planifient, ou calculent, mais au fond, c'est Dieu qui a le dernier mot. Et un autre texte, encore plus connu, recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. C'est un beau texte. Mais il faut bien le comprendre. Parce qu'on pourrait penser que c'est une promesse que Dieu nous fait. Peut-être que vous l'avez compris comme ça même. Tiens, il suffit que je présente ça dans la prière et ça va marcher. C'est ce que dit le texte quand même. Très littéralement, on prend mot par mot, recommande à l'Éternel tes œuvres et ben, ça va marcher parce que tu en as fait un sujet de prière. On sait très bien que c'est pas aussi simple que ça. C'est pas parce qu'on présente nos projets à Dieu qu'ils vont réussir. Hein, vous avez connu des échecs, hein? J'imagine. Pourtant, vous en avez fait des sujets de prière. Eh, ça n'a pas marché. C'est pas à prendre au sens littéral. Faut bien comprendre le texte, parce que souvent, nos raccourcis évangéliques, dans nos têtes, hein? Je fais la petite prière et ça va marcher. Non. Ce texte nous montre tout simplement que, quels que soient nos projets, nous devons sans cesse rechercher la face de Dieu, parce que nous dépendons de lui dans tout ce que nous allons faire. Et ça, c'est pas pareil. On parle pas de réussite, on parle de dépendance. Ce que Dieu veut, c'est que nous soyons dépendants de lui dans tous nos projets. On parle pas de réussite, parce que parfois, les échecs, ça vient de Dieu. Eh ben oui, on va le voir. Dieu peut fermer les portes. Mais ça doit rien enlever à ma dépendance du Seigneur. Parce que si vous croyez que Dieu va vous donner la réussite simplement parce que vous faites la prière pour présenter vos projets, vous allez être à un moment donné très déçu de voir que ça marche pas tout le temps. Mais la dépendance, elle, quelles que soient les situations, elle doit se développer. Je suis dépendant de Dieu. Je pense que nous le comprenons. Quand tout va mal, c'est là qu'on se cramponne un peu plus. Mais quand tout va bien, c'est là qu'on commence à... Passe-moi la personne, je veux lui parler. Mais quand les choses vont trop bien, parfois, on oublie de présenter les choses à Dieu parce que tout va bien, tout roule. Alors que le Seigneur voudrait développer ce sentiment de dépendance en tout temps, en tout temps, en tout temps. La Bible nous dira, dans l'épître de Jacques, « Vous qui dites aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous y travaillerons. » Oui, c'est trafiqué, mais bon, faut bien comprendre. Nous y travaillerons, nous gagnerons de l'argent. Vous qui ne savez pas ce que demain réserve, vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci et cela. La dépendance, si Dieu le veut. Qui peut dire que demain nous appartient? Personne. Qui peut dire que la fin de soirée nous appartient? Qui vous dit que vous allez entendre la fin de la prédication? Qui nous dit que je vais finir la prédication? On ne sait pas, hein? Si Dieu le veut. La dépendance. Tout faire avec ce sentiment de dépendance. Seigneur, si tu le veux, alors donne-moi les moyens de le faire, tout simplement. Et ça touche tous les domaines de la vie, pas simplement les choses spirituelles, mais les décisions familiales, les décisions professionnelles, les décisions... tout! Parce que c'est toute notre vie qui appartient à Dieu. On ne lui a pas donné que nos dimanches à Dieu. Toute notre vie, hein? Si Dieu le veut. Avoir des projets, c'est bien. C'est normal. Et même, je dirais, c'est un signe d'équilibre. D'équilibre. Vous savez, parfois on peut être très mystique dans ces choses-là. Oh, moi je fais que ce que Dieu me montre. Bah, peut-être tu feras rien du tout parce que Dieu te montrera plus rien. Tellement tu es mystique. Hein? Mais je crois que Dieu nous a donné un cœur, une intelligence et on peut s'en servir pour projeter des choses, pour planifier des choses. C'est pas un péché en soi. Du moment, Seigneur, si tu le veux, ben je le ferai. Mais si tu le veux pas, je vais pas m'entêter, je vais pas m'obstiner, je passe à autre chose. Si Dieu le veut. Si Dieu le veut. Le problème un peu dans tout ça, c'est que autant nous pouvons projeter et avoir des projets, c'est bien, c'est normal, je le répète, hein, mais faut pas oublier que Dieu aussi, lui, il a ses projets. Et ça peut créer, pas un conflit, mais une confusion. Une confusion. Parce que s'il y en a un qui doit abandonner ses projets, c'est pas Dieu, mais c'est nous. Nous devons abandonner nos projets quand ce sont ceux de Dieu qui doivent tout simplement être mis en place. Et parfois, Que de confusion il y a eu quand on a pris nos projets pour les projets de Dieu et on s'est mis à forcer des portes en se disant « Mais Dieu, Dieu, vas-y, ouvre la porte, fais quelque chose, parce que ça vient de toi, c'est toi qui l'as mis dans mon cœur. » Pas forcément. C'est peut-être nous qui voulons absolument faire cela pour Dieu. Et là, vous allez voir que la porte restera fermée. La confusion est terrible, cette confusion. Combien nous avons besoin de développer, j'y reviens, ce sentiment de dépendance à Dieu. C'est là que les choses s'éclaircissent, quand on est de plus en plus dépendant. La Bible nous dit, l'apôtre Paul nous rappelle que l'Esprit nous a été donné, justement, pour essayer de faire la lumière dans toutes ces confusions. Dans 1 Corinthiens 2, il est dit, ce sont des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues et qui ne sont pas montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées d'avance pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde de tout, même les profondeurs de Dieu. Voilà pourquoi ce sentiment de dépendance doit se nourrir au travers de cette communion avec Dieu, mais par le Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui va nous éclairer. C'est lui qui va nous montrer la voie, le chemin à suivre. C'est lui qui va nous montrer si nos projets sont approuvés de Dieu. Et c'est lui qui va vous montrer si vos projets ne plaisent pas à Dieu. C'est lui qui le fera. C'est son rôle. C'est son rôle. Le risque, c'est de négliger tout ça et de foncer tête baissée. Et on en arriverait à cet avertissement du Seigneur, malheur aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi et qui font des alliances sans ma volonté. Finalement, ils accumulent péché sur péché. Et que de soucis il y a eu dans le peuple de Dieu, parce qu'on s'est engagé dans des voies, croyant que ça venait de Dieu. On s'est persuadé que ça venait de Dieu. On a vu des signes partout. Et on a foncé en se disant, mais c'est forcément Dieu. Non. Attention. C'est le Saint-Esprit qui éclaire les cœurs. Attention. Attention à tous ces signes qui, on va y revenir, ces signes qui sont parfois trompeurs, parce que le diable sait imiter les signes. Il sait imiter les signes. Il se déguise en ange de lumière. Alors il peut faire des signes, il y a à mettre plein autour de vous pour vous faire croire que c'est le plan de Dieu. Mais c'est dans l'intimité avec Dieu que les choses se ressentent réellement. L'intimité avec Dieu. Dieu parle, dira l'Écriture, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et une porte fermée doit être aussi comprise comme le langage de Dieu. Parce qu'il n'y a pas de hasard. Si nous acceptons facilement que quand une porte s'ouvre, c'est de Dieu, nous devons accepter aussi facilement et naturellement que quand une porte se ferme, c'est de Dieu. Parce que c'est quand même, et nous le pensons, Dieu qui dirige tout. Pas le diable, c'est Dieu. Il fait le jour du bonheur comme il fait le jour du malheur. C'est Dieu. Il ouvre la porte comme il ferme la porte. La réussite et l'échec, ça appartient à Dieu. Il se sert autant de l'un comme de l'autre, tout simplement pour nous maintenir sur le chemin de la volonté du Père. Quand le Seigneur nous voit nous prendre des mauvaises directions, il va fermer une porte. On va se cogner dessus, on va ricocher dessus, et ça va nous réorienter sur le bon chemin. Alors c'est vrai que ça fait des chemins, hein, comme la boule de billard qui ricoche sur tous les côtés. Mais bon, elle est comme ça notre marche. On peut pas marcher de manière linéaire en progrès absolu constant. Ça n'existe pas. On se tape la tête contre les portes parce que des fois on est persuadé que c'est de Dieu et c'est pas de Dieu. Pam, on prend un coup, donc on revient. Et c'est la vie chrétienne, elle est comme ça, hein. Mais finalement, Dieu nous ferme des portes aussi, c'est pour nous préserver de nous-mêmes. Si vraiment on faisait ce qu'on voulait, mais même pour le Seigneur, peut-être qu'il y a longtemps qu'on aurait abandonné la foi, tellement on serait dans des situations tellement compliquées. Dieu, qui voit à très long terme les conséquences de nos choix, parfois ferme les portes. Parfois. Des fois, il nous livre à nos mauvais choix. Mais parfois, il ferme les portes pour justement nous éviter quelques malheurs supplémentaires. Donc je dirais que ce que je dis, c'est très facile, mais c'est dur à apprendre. Hein. Quand une porte se ferme, ben, on devrait pouvoir dire merci Seigneur. C'est douloureux, parce qu'on voulait tellement qu'elle s'ouvre. Vous connaissez mon témoignage, hein. Moi j'ai frappé aux portes de la gendarmerie. Ouvre-toi, ouvre-toi, ouvre-toi. Pendant des années, j'ai frappé aux portes. Quand elle s'est fermée, j'ai pas dit hey, merci Seigneur. J'ai jamais dit ça, hein. Jamais dit ça. Hein. Je pouvais pas dire ça. Mais maintenant, je dis merci Seigneur d'avoir fermé ces portes-là. Sinon, je me serais perdu. Merci Seigneur pour les portes que tu fermes. Adonija s'est vu la porte fermée, mais quelque part, c'était pour le préserver, parce que c'était pas le plan de Dieu. C'était pas le plan de Dieu. Cet homme aurait fait beaucoup de mal en Israël. Il n'était pas appelé à ça. Donc, pour préserver tout le monde, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a fermé la porte. Et regardez comment Dieu a été bon. Selon les pratiques, bon, bref, il aurait dû mourir même. La preuve, il avait peur de mourir. Mais regardez le cœur de Salomon. Voyant son frère cramponné aux cornes, son cœur est rempli de compassion. Mais non, je ne vais pas te tuer. La porte s'est fermée. Bon, tu as eu mal. Mais je ne vais pas te tuer. Imaginez, quoi. Il a 12 ans, il parle à son frère de 35 ans. Je ne vais pas te tuer. Je ne vais pas te tuer. Tant que tu me seras loyal, je ne te tuerai pas. La compassion. Dieu est bon. Quand Dieu nous ferme une porte, ce n'est pas pour nous tuer, ce n'est pas pour nous nuire, ce n'est pas pour nous écraser. C'est pour nous bénir. Mais ça, on ne le voit pas. On ne le voit pas parce qu'on ne voit pas plus loin que le bout de notre nez, c'est tout. Mais pourtant, Dieu nous vaut tellement du bien en fermant les portes. Mais qu'est-ce qui a fait que finalement la porte fermée d'Adonija s'est retournée contre lui? La Bible nous dit que s'il ambitionnait cette porte, c'est parce que son cœur était orgueilleux. C'est l'orgueil qui l'a poussé à vouloir le trône. Et regardez ce qui a causé la chute d'Adonija, mais la chute, la mort. C'est qu'à un moment donné, le temps va passer, mais dans son cœur, l'orgueil, lui, il est resté. Hein, il est resté. Et à un moment donné, il va faire une demande. Ce jour-là, il aurait dû aller cueillir les champignons. Il va demander, et encore il ne demandera pas à son frère Salomon, il va passer par Bathsheba. Par Bathsheba, la maman de Salomon. Il va dire, que le roi me donne la jeune fille, la Sulamite, qui était avec David lors de ses derniers jours. Et là, quand Salomon va entendre ça, ça va faire qu'un tour. Il dira, il n'a qu'à voir la royauté maintenant. Et là, il est exécuté. Parce que Salomon verra en lui quelque chose de déloyal dans la demande. Il sera exécuté. Mais c'était pas prévu qu'il meure comme ça. C'est son orgueil. Et ce qui nous fait le plus de mal, c'est que quand les portes se ferment, on n'arrive pas à voir les réactions spirituelles, mais c'est notre nature humaine qui reprend toute la surface, et c'est là qu'on se fait le plus mal, parce que on est aigri, on est amer, on est jaloux, et on va critiquer, murmurer, et s'en prendre à Dieu et à tout ce qui représente Dieu, parce que quoi? La porte s'est fermée. Alors qu'on devrait dire, merci Seigneur pour la porte qui se ferme. Mais les contrariétés font que tout ce qu'il y a de plus charnel en nous, ça remonte. C'est pas vrai? Mais pas vous, les autres. C'est les autres. Une porte qui se ferme, c'est une bénédiction de Dieu. On s'en aperçoit toujours après coup. Mais c'est une bénédiction de Dieu. C'est pour ça que je crois qu'on doit apprendre, mais ça avait le recul aussi, à dédramatiser une porte qui se ferme. Parfois, on est tellement, tellement obnubilé par quelques portes, on veut absolument qu'elles s'ouvrent. Mais dans tous les domaines, spirituels, familiaux ou professionnels, dans tous les domaines, que quand elles se ferment, on a l'impression que c'est la fin du monde, tout s'écroule, on a l'impression que ça y est, on est abandonné de Dieu, c'est un drame, une catastrophe, on s'en remettra jamais, c'est une bénédiction. Nous qui croyons qu'il n'y a pas de hasard, c'est une bénédiction si elle se ferme. C'est Dieu qui est en train de me dire que si je force cette porte ou si je franchis ce seuil de cette porte, je vais m'éloigner forcément de sa volonté. C'est pour ça qu'il la ferme. Et le but de la vie chrétienne, c'est de vivre la volonté de Dieu. Donc forcément, il va falloir que des portes se ferment. Mais c'est pas un drame. C'est des bénédictions. Je sais, c'est facile à dire. Mais quand on y est, tout ça, on le voit plus. Tout ça s'évapore. Mais pourtant, On gagnerait beaucoup de temps si on pouvait réagir spirituellement quand les portes se ferment, en reconnaissant que c'est Dieu, tout simplement, et il fait ce qu'il veut. Merci Seigneur de fermer la porte. C'est douloureux, ça fait mal, mais merci quand même. Je vais pousser la réflexion un peu plus loin. Au-delà du fait que si Dieu ferme une porte, c'est la volonté de Dieu, essayer de répondre en 4 points le pourquoi. Pourquoi Dieu nous ferme-t-il des portes? Au-delà du simple fait que ça va nous éloigner de Dieu. Des fois, il y a des raisons plus pertinentes. Des raisons qu'on trouve dans l'Écriture. Je dirais premièrement que Dieu peut nous fermer des portes. Il n'y a rien de systématique, mais Dieu peut nous fermer des portes parce que tout simplement, c'est pas le moment. C'est pas le moment qu'elle s'ouvre. Les circonstances ne sont pas favorables pour que la porte s'ouvre. Donc Dieu qui est bon et Dieu qui veut éviter qu'on se fasse du mal va fermer la porte, temporairement, en attendant que les situations, la circonstance, les événements deviennent favorables. Regardez ce qu'il est dit dans Actes 16. Je lis le texte, c'est des textes très connus, c'est l'apôtre Paul qui projette d'aller évangéliser une certaine contrée, la Mysie, et tout cela. « Ayant été empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole de Dieu dans l'Asie. » C'était un bon projet quand même. Ouvrir l'évangélisation en Asie. Mais Dieu, il a dit non. Ils traversèrent la Phrygie, le pays de la Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Ils franchirent alors la Mysie et descendirent à Troas. Eux, ils veulent monter, on va dire, vers l'Europe, on va dire comme ça. Et le Saint-Esprit leur dit non. Vous redescendez. Curieux, hein? Au travers des situations, parce qu'il n'y a pas eu de révélation, il n'y a pas eu un ange, il n'y a rien eu. Mais la situation, la porte ne s'ouvre pas. La situation matérielle ne permet pas le passage, on va dire, de la frontière, on va dire comme ça. Les douaniers ne veulent pas signer le passeport. Non, vous n'irez pas. Donc on sera à l'évidence, on fait demi-tour. Après, il y aura le songe et le rêve du Macédonien qui va confirmer que ce n'était pas le moment d'aller en Asie plus tard. D'autres. Mais pour Paul, ce n'était pas le moment. Une porte qui se ferme aujourd'hui ne signifie pas que demain, elle sera fermée. Parce qu'entre-temps, elle peut s'ouvrir. Ça dépendra des circonstances et des temps. Une porte fermée, une porte qui se fermerait, plutôt Dieu qui me ferme une porte et finalement me met un petit peu en irritation, en agacement, révélera tout simplement que je suis un peu trop pressé. Et en matière de plan de Dieu, ou plutôt de la cadence du plan de Dieu, combien d'enfants de Dieu ont voulu marcher plus vite que celui qui créait la musique ? Et ça crée des contretemps. Parce que ça ne veut pas dire que Dieu est contre. Non, ça veut dire que c'est pas le moment. Tu attends. Et ça, c'est dur. Hein. Vous savez, quand vous êtes zélé pour quelque chose, ça a dû vous arriver, je pense, c'est d'être zélé. Marius, je vois que tu lèves la main, tu veux dire quelque chose? Bon, mais c'est normal d'être zélé, on veut, parce qu'on aime Jésus, on veut faire des choses, et on est qualifié, voilà, et on veut, et la porte, elle se ferme. Et ça nous coupe tout l'élan. Eh oui, peut-être que Dieu te dit, stop, c'est bien ce que tu veux faire, mais c'est pas le moment. Prenez un exemple. Imaginez que, je suis pas un spécialiste, de l'agriculture, mais si nous semions du blé. Allez, on sème tous du blé. Mais on est tellement pressé que ça pousse que 2 semaines après, on va le récolter. Je ne sais pas si en 2 semaines, je ne sais pas les temps qu'il faut pour que la moisson... Mais je ne sais pas si en 2 semaines, ça met le temps de pousser, de faire quelque chose. Et ce n'est pas en restant là dans le champ à regarder que ça poussera plus vite. Non, il faut des temps. Il faut des temps de maturation, tout simplement. Et Dieu, lui, il est celui qui connaît les temps. Nous, on ne les connaît pas. Donc quand Dieu ferme une porte, c'est pas forcément qu'il est contre, mais c'est pas le temps de Dieu. Nous, on voudrait que ce soit maintenant, mais c'est pas le temps de Dieu. Alors, nul besoin aussi de tomber dans une sorte de fatalité évangélique. Bon, puisque c'est ça, un autre le fera, je me résigne, j'abandonne tout. Non! Mais non! C'est pas parce que c'est pas le temps qu'il faut tout abandonner. Il faut simplement attendre. 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 Attendre quoi? Le temps de Dieu. Il est écrit que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Et j'ai besoin que le Saint-Esprit renouvelle mon intelligence pour comprendre les temps de Dieu, pas les miens, les temps de Dieu. Je dois m'appliquer à marcher dans les traces, dans les pas de Jésus. Je dois pas le devancer. C'est pas à lui à m'attendre. C'est à moi à rester derrière lui. Le temps de Dieu. C'est dur, hein? C'est dur parce que des fois on voudrait que ça aille plus vite. Ben non. Le temps de Dieu sera toujours le meilleur. Se trompe jamais. Regardez même quand Jésus est venu sur terre, la Bible dit très clairement, lorsque nous étions encore sans force, Christ, autant marqué. C'est marqué. Qui c'est qui l'a marqué? C'est Dieu qui l'a marqué. Nous, on aurait pu penser, mais si Jésus était venu dès le premier jour qu'Adam et Ève ont péché, qu'est-ce que ça serait bien? Ça aurait évité toute cette humanité corrompue et la situation serait réglée. Mais non. Il faudra tous ces siècles et toute cette humanité corrompue dans le péché pour qu'autant marqué, Jésus vienne faire l'œuvre de Dieu. Est-ce que Dieu était en retard? Non. C'est nous qui ne comprenons pas les plans de Dieu. Lui, il a une vision globale, globale et générale de tout. Nous, on voit que la porte qu'on voudrait qu'elle s'ouvre maintenant, c'est tout. Faisons confiance à Dieu. Il n'est jamais en retard. Jamais en retard, jamais en avance, jamais en retard. C'est à nous à avoir et à comprendre le plan de Dieu. Ça nous parle de la dépendance, hein, tout simplement, au Seigneur. Donc, une porte peut ne pas s'ouvrir parce que c'est pas le bon moment, c'est-à-dire les circonstances sont pas prêtes. Deuxièmement, je dirais, il y en a quatre, deuxièmement, je dirais qu'une porte peut rester fermée parce que, alors là, plus parce que les circonstances sont pas prêtes, mais parce que je ne suis pas prêt. Les temps, eux, peuvent être très favorables. Ça y est, c'est le moment. La moisson, elle est là. Mais moi, j'ai pas compris encore comment il fallait récolter le blé. J'ai pas appris la technique. Je suis pas prêt. Et j'ai besoin d'être formé. Et ça, c'est Dieu qui maintient parfois des portes fermées en attendant que le Saint-Esprit me façonne. N'est-il pas dit que si on est fidèle dans les petites choses, Dieu ouvrira des portes plus grandes? Ben forcément. Mais tant que la fidélité ne s'est pas façonnée à moi, et ça c'est le Saint-Esprit qui fait ça, les portes plus grandes ne s'ouvriront pas, même s'il y a des choses qui paraissent urgentes. Dieu va à son rythme. Et nous sommes tous serviteurs et servantes de Dieu, mais pour que les portes s'ouvrent, il faut que nous soyons capable d'accomplir la tâche derrière la porte. Si je suis incapable, à quoi ça sert qu'elle s'ouvre? Je vais peut-être faire du mal à des gens ou à des personnes ou faire des catastrophes. Non, si Dieu ouvre des portes, c'est pas pour faire des... Non, c'est pour faire de belles choses. Donc, il faut que je sois façonné et formé. Il est écrit dans Actes 13, ce texte, « Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » C'est étonnant. C'est vraiment même curieux ce texte parce que on s'arrête pas sur les mots, mais pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère. Ils sont déjà actifs, les bonhommes, hein. Paul et Barnabas sont déjà actifs dans l'église locale. Ils font quelque chose. Ils ont déjà un ministère local. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font, peut-être la musique, le chant, la prédication, l'école du dimanche, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font. Mais ils font des choses, et là ils sont en train de jeûner, prier avec toute l'église, et d'un seul coup le Saint-Esprit parle. Ces deux-là, je leur ouvre une porte plus grande, maintenant. C'est étonnant, on est dans Acte 13. L'apôtre Paul, il s'est converti, c'est Acte 9, la grande révélation sur le chemin de Damas. entre acte 9 et acte 13, il y a quand même, bah ouais, acte 10, 11 et 12, hein. Ça représente quelques années. On sait pas trop, on a du mal à quantifier le nombre d'années que ça représente, mais il y a des années se sont écoulées. Et pourtant, on a l'impression que c'est simplement dans acte 13 qu'ils vont décoller. Parce qu'à partir de là, c'est le premier voyage missionnaire de Paul. Est-ce que cela veut dire qu'il a perdu du temps pendant ces trois chapitres-là, à travailler dans l'église locale? Non. Formation. Formation. On a tous besoin de formation. Formation théorique, biblique, théologique, spirituelle. Bref, à tous les niveaux, on a besoin d'être formé. Et ça prend du temps. Et il y a des portes qui s'ouvriront que quand je serai un peu plus formé. Pour des œuvres préparées d'avance. Et Paul a été formé, Paul, Barnabas ont été formés pendant ces quelques années. Et voilà que d'un seul coup, la porte s'ouvre. Je crois qu'il est important de ne pas forcer les portes pour faire même des choses pour Dieu alors que le Saint-Esprit n'a pas fini de nous former. On a un exemple remarquable. Moïse, il est appelé, il sent dans son cœur que son peuple est en souffrance. Il va même essayer de commencer une œuvre de libération. Essayer de commencer à régler les problèmes avec ses frères, là, parce qu'il y avait un Égyptien qui malmenait, vous connaissez le récit. Il va essayer de faire du bien, il va essayer. Il va tuer l'Égyptien, il va paniquer, ses propres frères se retournent contre lui, il panique et il s'en va dans le désert. Pourtant, son cœur, il voulait faire du bien, il voulait les aider. Il les voyait opprimés, il les voyait malmenés par les Égyptiens, il veut les aider et c'est eux-mêmes qui se retournent contre lui. Il n'était pas prêt. Il lui faudra 40 ans de désert pour que son cœur soit prêt à revêtir le manteau du libérateur. Hein, ouais. Bon, c'était pour lui. Mais ça montre bien que toute œuvre que Dieu prépare, il y a forcément une préparation spirituelle déjà dans le cœur. Parce que c'est pas rien l'œuvre de Dieu. Et à tous les niveaux, c'est pas rien. On ne peut servir Dieu qu'avec les moyens que Dieu vous donnera. Ça s'appelle la formation. La formation. Donc une porte qui se ferme, une porte qui est fermée, qui ne va pas s'ouvrir, c'est alors qu'on a des désirs dans le cœur, c'est peut-être tout simplement parce que, oui, on n'est pas prêt. Alors Seigneur, façonne-moi. Façonne-moi. Tout simplement. T'es bon? Je continue. Troisième raison pour laquelle une porte peut rester fermée, ça peut paraître la plus évidente, parce que c'est pas pour moi. Hein? C'est pas pour moi. Des projets, telle direction, telle activité, la porte s'ouvre pas. C'est peut-être tout simplement parce que Dieu dit non, c'est pas pour toi. Ton projet, non, laisse tomber. Cette direction, non, tu restes là où tu es. Là, il y a quelques, on a essayé, on voulait déménager. Pas partir de Castres, hein, rassurez-vous. De rue. Voilà, il nous faut un peu plus grand. Ben, elle a essayé. Nous avons un peu essayé, un peu partout. On a visité, on a téléphoné, on a regardé. Ça passe pas. Bon. Mais au bout d'un moment, on s'est dit, bah finalement, on est bien là. Hein. On va y rester. Hein. Parce qu'il fallait qu'on trouve absolument un logement, on le trouvait assez rapidement. Hein, dans les déplacements pastoraux, on trouvait. Là, c'était... Bon. Ben, c'était pas pour nous, voilà, tant pis. Mais ça peut être à tous les niveaux, là, c'est très matériel, on parle d'un logement, mais ça peut être professionnel, ça peut être encore spirituel, ça peut être familial. Il y a parfois des portes qui s'ouvriront pas parce que Dieu, en fait, c'est non. Non, c'est non. Il y a des choses à laquelle Dieu nous a pas appelés et la porte, elle se fermera pas. C'est même pas une question de formation, c'est pas une question de temps favorable ou pas, c'est non. Parce que Dieu a dit non. On a un exemple, plusieurs exemples, mais là c'est à propos d'une fonction. C'est le roi Ozias. Le roi Ozias, il est dit qu'à un moment donné, il est devenu tellement puissant que son cœur s'est enflé d'orgueil. Et il a voulu ambitionner la fonction de sacrificateur. Il a voulu jouer au sacrificateur. Il est rentré dans le temple et là, il s'est mis à verser du parfum. Ce qui était mais, totalement consacré qu'au sacrificateur. Et lui, il a voulu faire ça. Mais quand il a voulu faire ça, Dieu, il n'a pas été content. D'un seul coup, la lèpre qui le couvre totalement, il mourra de cette lèpre, isolé, reclus. Il y a parfois des portes qui seront fermées parce que Dieu dit non. Voilà. Nul besoin d'essayer de changer la décision de Dieu, ça ne marchera pas. Dimanche, on avait vu quand Moïse a prié, il a essayé, « Seigneur, s'il te plaît, change d'avis, je veux rentrer dans le pays promis. » Dieu lui a dit, « Assez, tu ne me parles plus de ça, on n'y revient plus. » Dieu s'est mis en colère. Il y a des portes qui se fermeront parce que ce n'est absolument pas prévu dans le plan de Dieu qu'elles s'ouvrent. Et ça peut être dur. Ça peut être dur à accepter, à encaisser. Mais pourtant, on sait tous que le plan de Dieu, c'est forcément le meilleur pour nous. On le sait. Je vais parler du ministère, parce que souvent dans les assemblées, c'est un peu le sujet récurrent. Hein. Combien ont ambitionné le ministère? Combien ont voulu être pasteur? Combien ont voulu essayer de forcer les choses? On peut faire le pasteur, on peut faire le prédicateur, mais si on n'est pas appelé de Dieu, on va se casser les dents. Mais c'est sûr, c'est qu'une question de temps. Il y a des choses à laquelle Dieu dira non. Et il faut accepter les noms de Dieu. Et ça sert à rien de s'obstiner, ça sert à rien d'essayer de jouer des coudes, de forcer, de... Ça sert à rien. Dieu changera pas d'avis. Parce que c'est sa volonté qui est de loin la meilleure. Et Dieu, en me sauvant, en me rachetant, et je crois qu'on l'a compris tous, que ce qu'il fallait dans le salut, c'était rechercher ses œuvres pour faire sa volonté, ça on le sait tous. Alors pourquoi ça devient un drame quand Dieu dit non? Des fois, c'est terrible, hein? On se met en guerre contre Dieu, on se met en guerre contre l'Église, on se met en guerre contre tous les responsables, on est en guerre, mais... Alors qu'on sait tous qu'au fond, on est sauvé pour faire le plan de Dieu. Et quand Dieu ne va pas dans notre sens, ça ne passe plus. C'est terrible, hein? Tout vient du cœur. Hein? Tout vient du cœur. Tout vient du cœur. Ozias, Adonija et tous les autres. Hein? Ce qui a fait qu'ils ont eu du mal à accepter que les portes se ferment, la Bible le dit, orgueil. C'est toujours l'orgueil. L'orgueil, c'est quoi l'orgueil? Si on devait donner une définition biblique, parce que bon, si on va dans l'édico séculier, on peut trouver tout et n'importe quoi. Mais en fait, c'est le refus de dépendance et le refus de se soumettre à une autorité supérieure. Donc l'orgueil, quand on part du principe que les plans de Dieu sont forcément mieux que les miens, je comprends que je dois me soumettre à ceux de Dieu. Et c'est là qu'on part en guerre parce que on veut pas se soumettre au plan de Dieu. Terrible, hein? Mais tellement récurrent dans les églises, on s'obstine, on s'auto-convainc que c'est forcément si de Dieu, que c'est les responsables qui ont rien compris, que c'est l'église qui est pas ouverte. Bon, bref. Oh là là. Attention. Attention, je le disais tout à l'heure, le diable se déguise en ange de lumière. S'il y a dans les cœurs des racines et des grandes aspirations, des choses, qui peuvent à la base être parfois saines et naturelles, mais quand on nourrit trop les... Des fois, ça peut prendre des mauvaises proportions, et c'est là que le diable, voyant une faille, va l'exploiter. Et là, on se met à interpréter les dons spirituels comme forcément allant dans mon sens. Et là, on se met à faire des songes. Pourquoi? Parce que ça travaille tellement sous le chapeau que la Bible dit que on en fait des songes. Et on voit des signes partout. Des prémonitions, des révélations. Et c'est très à la mode. Et le prophète un tel qui arrive. Oh, tu vas faire de grandes choses. Bref. C'est terrible, hein? Parce que je crois qu'avec Dieu, faut rester simple. Dieu, il n'est pas mystérieux. Dieu, il n'est pas là pour nous cacher. Il ne joue pas cache-cache avec nous. Au-delà de tous les signes que tu pourrais recevoir comme te confortant dans une situation, mais ouvre les yeux simplement. La porte est fermée. Bon, rends-toi à l'évidence. Si elle devait s'ouvrir, Dieu l'ouvrirait. Mais si elle ne s'ouvre pas, alors que tu es rempli de confirmations auto-spirituelles ou je ne sais pas trop quoi, et si tu remettais en cause toutes ces choses qui viennent là comme pour appuyer une position qui, à l'évidence, reste bloquée. Alors, oui, mais c'est le diable. Attends, qui contrôle tout, le diable ou Dieu? Si le porte est fermé, et si c'est Dieu qui l'a fermé? Vous savez qu'on peut se tromper par les dons spirituels. On peut mal les interpréter. Des fois, on s'approprie les choses alors que ça n'avait rien à voir. Même les songes, les rêves, tout ça, toutes ces choses dites spirituelles qui sont des moyens, c'est vrai. C'est des moyens bibliques, mais c'est tellement dangereux de s'appuyer sur ça. Tellement dangereux. Si le porte est fermé, elle est fermée. Peut-être qu'elle s'ouvrira plus tard, mais est-ce que ça légitime le fait de forcer une porte parce qu'on a reçu un don spirituel? C'est hyper dangereux. C'est très très dangereux de faire ça. Parce que tous les ministères, finalement, dans l'Écriture, notaient que les gens ne se sont pas levés en disant « Oh, j'ai reçu une prophétie, j'y vais ». Non, c'est l'Église qui envoie. C'est toujours l'Église qui mandate et qui envoie, parce qu'on reconnaît un ministère dans les personnes. Vous voyez, c'est pas un truc comme ça qui tombe. Non, c'est des choses qui se font dans le temps. On reconnaît qu'il y a quelque chose. Donc, et les portes s'ouvrent naturellement, simplement. Là aussi, il y a tellement d'erreurs, tellement de souffrances, tellement... Des fois, on a placé des gens, nous les pasteurs, on a placé des gens... Mais ils n'étaient pas appelés à ça, et ça fait des dégâts. Ils se sont fait mal eux-mêmes, ils ont fait mal aux églises, alors qu'ils étaient appelés à des choses plus simples, mais des choses que Dieu avait préparées pour eux. Je crois qu'il faut accepter tout simplement que quand Dieu dit non, c'est non. Et que parfois, c'est nos cœurs qui sont un peu trop ambitieux. L'orgueil. Eh oui, l'orgueil, je sais, c'est pas plaisant à entendre, mais on est tous un peu orgueilleux. Hein? Sinon, comme quelqu'un a dit, on ne se plaindrait pas de celui des autres. On est tous un peu orgueilleux. Et c'est là que par le Saint-Esprit, ce sentiment de dépendance doit grandir, pour que notre orgueil, c'est ce refus de se soumettre aux portes fermées comme aux portes ouvertes, ben, tout simplement, et disparaisse pour que tout simplement la volonté de Dieu devienne, comme dira Jésus, notre nourriture. Oui. C'est tellement important. Tellement important. Et enfin, dernier point. Une porte ne peut peut-être ne pas s'ouvrir parce que tout simplement, Dieu ne nous approuve plus. Je répète. Il ne nous approuve plus. Ça veut dire, il nous a prouvé, quelque chose s'est passé, il n'est plus d'accord. Il n'est plus d'accord. Apocalypse 2 nous dit, souviens-toi, d'où tu es tombé, il parle à une église. Repens-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de ta place. À moins que tu ne te repentes. Je paraphrase. Pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et je fermerai cette porte qui est encore ouverte. À moins que tu ne te repentes. C'est pareil, c'est la même idée. Je te fermerai la porte. Si tu ne changes pas, je te fermerai la porte. Dieu peut nous fermer des portes parce que tout simplement, à un moment donné, son approbation divine n'est plus sur nos vies. Eh oui. Et là, Dieu ne peut pas tout laisser passer au nom de l'amour. Oh, tu es mon enfant, c'est pas trop grave, je maintiens la porte. Non. Si Dieu n'est plus d'accord, la bénédiction s'arrête. Eh oui, Dieu bénit pas le péché. et encore moins le pécheur. Car l'approbation de Dieu n'est pas là, c'est que c'est le péché qui est revenu, la désobéissance, sous toutes ses formes, peu importe. Une porte peut se fermer tout simplement parce que c'est une conséquence d'un péché dans nos vies. On a des exemples, des hommes qui avaient des portes grandes ouvertes. C'est Dieu qui avait ouvert les portes, c'est incontestable, mais elles se sont fermées parce que l'approbation n'était plus. Un exemple, au moins deux. Saül, le roi Saül. Qui lui a ouvert la porte de la royauté? Il n'a rien demandé, lui, hein? Il n'a rien demandé. On est venu le chercher. Dieu est venu le chercher. Tu seras roi. Oui, mais il est resté roi tant qu'il est resté dans l'obéissance. Quand il a échoué au fameux test de patience, Dieu lui a dit par le prophète, « Je te retire la royauté. » La porte se ferme. Dieu n'a pas changé d'avis. C'est le cœur de Saül qui a changé. Obéissant qu'il était autrefois, il est devenu désobéissant. Dieu n'est pour rien. C'est le cœur qui change. Et un exemple, certainement même le tout premier exemple biblique, Adam et Ève. Tant qu'ils étaient dans la dépendance et l'obéissance de Dieu, c'était parfait. Le jour où le péché est venu à cause de la désobéissance, la porte s'est fermée. Eh oui, elle s'est fermée. Ils ont été chassés, hein. Chassés du jardin, impossible de revenir. Et en plus, il y avait un gardien, hein. Ils pouvaient plus revenir. C'est le péché qui a tout changé. Dieu, lui, change pas d'avis. Mais tout ça pour montrer que, des fois, on se coupe de la bénédiction parce qu'on s'est placé sous le péché. Volontairement. Je parle pas du péché par accident, par ignorance. Le péché, on l'a fait et on l'admet pas. On le confesse encore moins parce qu'on est forcément, on est persuadé d'avoir raison. Eh oui, mais la porte, elle est en train de se fermer quand même. Une porte qui est ouverte aujourd'hui, pour quel que ce soit, elle peut se refermer demain. Mais je parle pas simplement de l'œuvre de Dieu, d'un service, je parle mais dans la vie, aujourd'hui. Bon exemple, je veux effrayer personne, hein. Mais ça peut faire peur. Quand même, aujourd'hui, t'es heureux en famille? Bien, gloire à Dieu. N'est-ce pas la grâce de Dieu? Ben si, la grâce de Dieu. Oui, mais si on se met à jouer avec le péché, mais vraiment à jouer avec le péché jusqu'à « Oh Seigneur, c'est bon, hein, ça va ». Si Dieu retire sa bénédiction, tu vas voir que ta famille elle peut très vite éclater. La maladie, le deuil, chômage, toutes ces choses qui sont là pas pour nous détruire, quoique ça nous fait beaucoup de mal, mais pour nous montrer, du moins Dieu essaie de nous montrer par ça, « Mais vous, tu fais fausse route, reprends-toi, reviens à moi. » Et on en a des témoignages, hein? Tellement. Une porte ouverte aujourd'hui ne garantit pas que demain elle sera encore ouverte. C'est pour ça que toute l'Écriture nous appelle à veiller, 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 veiller et persévérer dans les voies de Dieu. De veiller et de persévérer dans l'obéissance due à Dieu. Vous savez, quand vous obéissez à Dieu, même si ça vous coûte, vous faites rien d'extraordinaire, hein? C'est normal. Hein? C'est normal. C'est normal. Quand vous lisez la Bible, quand vous priez, même quand vous jeûnez, priez, mais ne placez pas ça devant Dieu comme étant presque des moyens de chantage. Seigneur, t'as vu ce que j'ai fait aujourd'hui? J'ai lu 5 chapitres, faut que tu me bénisses maintenant. Attends, mais c'est normal que tu lises la Bible. C'est normal que tu pries. C'est normal que tu viennes à l'église. Ne commençons pas à marchander les choses avec Dieu en faisant. C'est du chantage. Que si Dieu rentrait dans notre jeu, on n'a plus à perdre dans l'histoire. Hein? Ah, si tu vas pas à l'église, je te reprends la vie. Oh, l'église, elle se remplit. Hein? Elle se remplit vite. Hein? Elle se remplit vite. On devrait construire un deuxième local même. Ouais. Mais Dieu ne marchande pas, heureusement. Dieu, lui, il agit sur la base de l'amour, mais il attend que les choses se fassent en retour aussi. Je lis la Bible parce que j'aime Dieu. Je vais à l'église parce que j'aime Dieu. Quand on commence à marchander, c'est que les choses ne sont pas, c'est pas net dans le cœur. Il y a des choses calculées. Voilà. Voilà pourquoi Dieu, parfois, nous résiste un petit peu. Mais une porte qui est fermée, il peut avoir donc des raisons dites spirituelles, tout simplement. Il est bon de s'examiner. Péché, insoumission, rébellion, désobéissance. Ce sont des choses qui, malheureusement, forcent la main de Dieu à fermer des portes. Parce que Dieu veut attirer notre attention en nous disant par les circonstances, non, je peux plus te bénir là-dedans. Parce que ton cœur, il n'y a plus mon approbation. Terrible, hein? On a un exemple, un bel exemple. Israël dans le désert. Ils sont sortis d'Égypte, ils ont tourné pendant quelques jours, une dizaine de jours, et ils sont maintenant devant les portes du pays promis, Canaan. Ah oui, 12 jours, hein, le truc, c'est rien, c'est une ligne droite. Ouais, presque. Bref, ils sont là. Et Dieu leur dit, mais allez-y, la porte est ouverte. Oui, mais entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé? Moïse avait mandaté les 12 espions pour aller s'assurer que, voilà, c'était pas trop dangereux. Et il y en a deux qui sont gonflés à bloc, faut y aller, Dieu est avec nous. Et il y en a 10, on dit, faut pas y aller, parce qu'il y a des géants, il y a des anarques et tout ça, il y a des forteresses, on va périr, on va mourir. Et ça a découragé tout le peuple. Et ça a commencé à semer une graine d'incrédulité. Oh, Dieu nous va nous abandonner, on va tous mourir. Et là, Dieu, il a pas aimé ça, hein. Et Dieu a dit, bon, mais puisque c'est ça, puisqu'il n'y a plus cet élan de foi, puisque je ne vous approuve plus dans vos fonds de vos cœurs, je vous ferme la porte. Dieu leur dira, je vous ferme la porte, vous allez tourner pendant 40 ans. Pendant 40 ans, vous allez tourner et j'ouvrirai la porte à vos enfants. Vous allez mourir parce que vous n'avez pas voulu rentrer dans le plan de Dieu. Vos enfants y rentreront. Là, qu'est-ce qu'il y a eu? Sursaut. Ah si, ouvre-nous, on veut y aller. Tu m'étonnes, il veut pas aller dans le désert. Hein? Mais Dieu dit, non, trop tard. La porte est fermée. Et ils vont périr dans le désert. C'est la deuxième génération, les enfants, qui profiteront de ce passage providentiel pour entrer dans le pays promis. Mais tout ça pour dire que Dieu peut très bien nous ouvrir une porte dans quelque domaine que ce soit, mais ça garantit pas qu'elle sera toujours ouverte. Tout dépendra du cœur. Tant que l'approbation de Dieu sera là, les portes seront ouvertes. Dès que l'approbation de Dieu n'est plus, les portes peuvent commencer. Je dis bien peuvent, c'est pas systématique. Et c'est pas des claquements de portes, mais c'est la porte qui se referme doucement. Doucement. Vous savez, comme les portes avec un groom. Doucement. Mais au bout d'un moment, le doucement, il est au total. Hein. Ça se ferme. C'est pour ça que la repentance sera toujours l'alternative de victoire qui permet de regagner la faveur de Dieu. Et donc sa bénédiction. Combien c'est important de comprendre ça. Pour terminer, je dirais que s'il y a quelque chose que vous devez retenir, c'est trois mots. C'est deux mots. Dieu règne. Au-delà des situations, des circonstances, des portes ouvertes et fermées, voyez toujours Dieu au-dessus de tout, c'est lui qui décide de tout. Le diable n'est qu'un agent exécuteur, un portier qui peut fermer ou ouvrir, soit pour nous tromper, soit pour nous séduire, ou soit pour nous résister. Mais ce qu'il fait, il ne peut le faire que s'il a l'aval de celui qui a tout planifié. Donc si on part du principe que c'est Dieu qui règne et que c'est Dieu qui décide, acceptons les portes qui se ferment. Acceptons les portes qui se ferment. Accepter qu'elles s'ouvrent, ça, c'est naturel. Mais acceptons qu'elles se ferment. Parce que Dieu, parfois, poursuit un but très précis en fermant les portes. Je récapitule. C'est peut-être parce que c'est pas le moment. Les circonstances ne sont pas prêtes. Ou c'est parce que toi, tu es pas prêt. Et Dieu va te façonner, Dieu va te former. Ou alors c'est parce que c'est pas pour toi. C'est pas une orientation pour toi, tout simplement. Ton projet, c'est pour quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre. Ou tout simplement, c'est peut-être parce que l'approbation du Seigneur n'est plus sur ta vie. Alors là, réexamine sérieusement ta vie devant Dieu. Mais ça sert à rien d'essayer de forcer des portes. Ça sert à rien de pleurnicher devant des portes fermées. Ça sert à rien de mendier, Dieu, ouvre-moi la porte. Non. Caprice. Ça sert à rien. Acceptons et analysons. Remettons-nous en cause devant Dieu, tout simplement. Dieu ouvrira ou Dieu fermera, mais soyons de ceux qui nous laissons renouveler par le Saint-Esprit afin que notre intelligence puisse comprendre quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et parfois des portes, c'est pas bon et agréable pour nous, même si pour nous ça nous paraît pourtant très attrayant. Comprenons que si nous sommes sauvés, c'est pour faire la volonté de Dieu, pas la nôtre. Amen. Adonija, la porte lui a été fermée. Ça aurait pu en rester là, mais le fond de son cœur orgueilleux a voulu encore essayer de se manifester et de forcer encore les choses. Il périra. Ouf. Ce sont ses mauvaises réactions qui l'ont perdu. C'est pas la porte. C'est plutôt une bénédiction que Dieu l'arrête. Mais c'est ses réactions devant la volonté de Dieu qui a été sa perte. Je veux dire, ne causons pas nos pertes en ayant de mauvaises réactions devant des portes qui se fermeraient. Mais apprenons à dire « Merci Seigneur, merci Seigneur ». C'est Job qui dira « Que Dieu soit béni, tu as donné ». Ah, vous connaissez aussi celui-là ? L'Éternel a repris. Dieu ouvre, Dieu ferme, mais c'est pareil. Dieu ouvre, Dieu ferme, que Dieu soit béni. Eh oui, elle n'a pas eu le même discours. Apprenons ces choses-là. Parce qu'il n'y a pas de, il n'y a pas de hasard dans nos vies. Il n'y a pas de hasard. On n'est pas livré à l'influence d'un alignement d'étoiles célestes en regardant l'horoscope pour voir si les portes vont s'ouvrir. Non, on a dépassé tout ça. Nous comprenons que nous avons un Dieu qui règne. Et nous voulons nous soumettre à tout ce qui se passe dans nos vies, parce que tout ce qui se passe, c'est lui qui le permet. Car toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc si vous aimez Dieu, donc apprenez à discerner la volonté de Dieu, même devant une porte fermée. On prie le Seigneur ? Notre Dieu, nous te bénissons. Te bénissons, Seigneur, parce que tu es celui qui planifie toutes choses et tu as racheté nos vies pour nous apprendre à marcher dans ce que toi tu as préparé. Seigneur, combien ces leçons sont très dures, douloureuses. Seigneur, aide-nous, Seigneur, par ton esprit, à façonner en nous, Seigneur, cette disposition de cœur qu'avait Jésus. Nous voulons avoir les sentiments qu'avait Jésus et apprendre l'obéissance, même par les choses qu'il faudra souffrir. Donne-nous, Seigneur, oui, d'apprendre à te remercier même quand une porte se ferme. Parce que tu as forcément planifié des choses qui nous sont spécifiques, des choses qui sont appropriées pour nous. Tu nous as tous qualifiés de quelques talents très, très variés pour ton œuvre. Alors nous croyons que dans tout cela, il y a un plan très précis, Seigneur. Il n'y a que nous qui pouvons nous tromper. Toi, tu te tromperas pas. Alors, Seigneur, donne-nous le bon discernement, la sagesse et la compréhension des événements. Seigneur, pour ne pas mener de faux combats, pour ne pas nous obstiner, nous entêter devant des portes fermées, Seigneur, donne-nous, Seigneur, par ton esprit, cette intelligence spirituelle, pour continuer, quoi qu'il en coûte, quoi qu'il se passe, le chemin avec toi. Parce que tu as planifié forcément de belles choses pour chacun de tes enfants. Nous bénissons ton nom. Amen. Amen. Que Dieu soit béni.